C'est drôle parce que je me rends pas compte, j'ai une scène avec Emily Deken où je tourne autour d'elle, je lui explique un truc, alors c'est assez rigolo parce que c'est la cour d'Espagne, je sais plus à quel siècle d'ailleurs, on va dire au 16e siècle, quelque chose comme ça. Et donc je fais une espèce d'homme de cour avec une, vous savez, la perruque à rouleau. Et je suis en train de tourner autour d'Emily Deken en lui expliquant tout un truc en anglais. Et au moment où je me retourne, j'avais pas du tout fait gaffe parce que la scène s'était un peu préparée sans nous. Je me retourne et je vois De Niro et Jim Sheridan en train de faire de la figure dans la scène. Il y a De Niro en éveil qui me regarde, je reste un peu bloqué. Il me fait un petit signe de tête, genre en plissant des yeux, genre vas-y, continue. Et j'enchaîne tout en me disant, il y a De Niro qui fait de la figure dans ma scène quand même.
Bonjour à tous, vous écoutez Cadavrexki, le podcast qui décompose un parcours inspirant. Pour ce nouvel épisode, je reçois un acteur français. Vedette de la série Alex Hugo sur France 3, nous sommes revenus ensemble sur Tu ne tueras point, un film sur le procès d'une mère meurtrière de sa fille autiste. À l'origine du projet, nous avons parlé également de son parcours et son engagement à travers la plateforme Autisme Info Service. J'ai le plaisir d'accueillir Samuel Le Bihan. Bonjour Samuel.
Bonjour.
Comment ça va ?
Ça va bien, ça va bien. Je reviens de province, là où je présentais un film que j'ai fait l'année dernière qui s'appelle Seul, sur l'histoire d'Yves Parlier quand il a fait le Vendée Globe, qu'il a cassé son mât et qu'il a refusé d'abandonner. Il a réparé tout seul son mât, il a poursuivi la course, il n'avait plus rien à manger. Ça raconte l'histoire d'un homme qui ne lâche rien, qui va au bout de ses engagements, dans une espèce de solitude, mais un entêtement. Je trouve que c'est une leçon de vie, en fait. C'est extrêmement inspirant. Et donc, j'avais vu le film. Là, c'est la première fois que je le voyais en public, dans une grande salle. C'était fort. Mais voilà, rien à voir avec notre sujet, mais puisque tu me demandes comment je vais, moi, je commence à raconter ma vie.
Écoute, avec plaisir. On pourra le voir quand, ce film ?
Je pense qu'il sortira en même temps que le départ du Vendée Globe, au mois de novembre, vers le 10 novembre.
En tout cas, merci de participer à ce podcast qui s'appelle Cadavrexki, dans lequel je décompose des parcours inspirants. Et en travaillant cet entretien, je trouve que ton parcours, il est inspirant à bien des égards. Mais là, on va le découvrir à travers le prisme de l'engagement. D'accord. Puisque ce mercredi 3 avril à 21h10 sur France 2 est diffusé Tu ne tueras point, une fiction sensibilisant sur l'autisme et qui sera suivi d'un débat ensuite.
Ouais, absolument.
Débat animé par Julien Bugier. Déjà, sur le téléfilm, fort de tes relations avec France Télé, tu avais déjà fait un téléfilm il y a quelques années sur le même sujet.
Absolument, oui, oui. J'avais proposé l'histoire d'un père qui découvrait une paternité qu'il avait toujours fui, mais il se trouve que le personnage était avocat. Et donc, il gagnait de l'argent et il résolvait cette fuite de la paternité par l'argent, puisque son fils était autiste et que sa mère s'en était tout le temps occupée et sa mère tombait gravement malade. Et il se retrouvait avec ce fils qu'il devait découvrir. Et dont il essayait de placer dans une institut, mais évidemment c'était pas si simple. Et puis il se fait avoir, il rentre en affection, dans une affection profonde pour ce fils qui souffre de handicap. Donc voilà. Et cet avocat n'avait aucune plaidoirie. Et là, je me dis, c'est dommage de faire un avocat et de pas avoir de plaidoirie. Et je cherchais vraiment un autre sujet. Hein. J'étais pas forcément branché sur le fait de... Et j'ai pensé à... J'avais déjà entendu à la radio le cas de ces mères, très rares, mais qui existent quand même, où une mère à bout de solution, dans l'isolement, le désarroi, finit par mettre fin au jour de son enfant handicapé. Parce que pour elle, c'est la seule solution pour abréger ses souffrances. Et là, il y a une vraie question qui se pose. Est-ce que c'est la société qui l'a abandonné ou c'est la mère qui donne la vie et tout pouvoir qui la reprend ? C'était intéressant de poser le débat sans amener la réponse, parce que la question, c'est pas de savoir si elle est coupable. Oui, elle est coupable, mais comment s'exerce la responsabilité ? À quel moment la société a failli à ses devoirs ?
Donc, le premier téléfilm que j'évoquais s'appelle « T'en fais pas, je suis là ».
Oui.
Et il contrebalance vraiment avec le sujet de ce nouveau téléfilm, puisque le premier, c'était vraiment un téléfilm qui montrait des situations vraiment drôles, un peu inopinées, presque des situations un peu décalées.
Oui, c'est vrai.
Et ouais. Là, c'est vraiment complètement autre chose. On voit un peu l'autre versant.
Oui, c'est plus militant, plus dur. Mais c'est pas le sujet, c'est pas l'autisme, c'est vraiment le handicap et c'est surtout l'isolement. C'est l'isolement dont je voulais parler, la façon dont les mères aussi souvent se sacrifient pour l'enfant. Parce que dans souvent, les couples explosent. Là, voilà. Dans le milieu de l'autisme, hein, que je connais un peu plus, souvent, les 80%, les couples explosent. Et 80% sont les mères qui, ou 90% même, qui se sacrifient pour l'enfant, qui arrêtent leur carrière, leur travail, qui se substituent aux éducateurs, qui apprennent, qui se forment, qui s'occupent de leur enfant, qui lui amènent un bonheur relatif tous les jours. Et le danger, c'est de s'isoler peu à peu, à la fois d'un cercle familial, amical, et professionnel, et social. Donc en prenant un cas extrême, c'est une façon de balayer le sujet vraiment pour en parler, pour ouvrir le débat, pour poser des questions.
Avant de rentrer plus en détail sur le sujet de l'autisme et de l'handicap, j'aimerais revenir brièvement un petit peu sur ton parcours. Parce que c'est vrai que depuis 10 ans, on te voit dans Alex Hugo, une série qui cartonne sur France Télé.
Ouais.
Mais en travaillant, j'ai découvert beaucoup de choses et j'aimerais un petit peu le transmettre à mes auditeurs. Mais tout simplement, je commence de la même façon avec tous mes invités. Juste pour planter le décor rapidement, je voulais savoir où tu étais né et où est-ce que tu as grandi.
Je suis né à Avranches, dans le 50, mais j'ai jamais grandi là-bas. C'est parce que ma grand-mère habitait Sartilly, une ville entre Granville et Avranches. Donc en Normandie, dans la baie du Mont-Saint-Michel. C'est juste parce que ma mère était partie en province pour accoucher, parce que mes parents habitaient à Paris, à La Fourche. Et j'ai grandi donc dans le 18e, et après en banlieue parisienne, dans le Val-d'Oise.
Et ils faisaient quoi tes parents quand tu vivais encore sous leur toit ?
Mon père était laveur de vitres et ma mère était nourrice à garder des enfants.
Pas du tout un enfant de la balle en ce qui concerne le ciné.
Non, vraiment pas. Et je crois qu'on était allé très rarement au cinéma avec mes parents. Pour moi, c'était magique. Le peu de fois où on y allait, ensemble, quand j'étais petit, hein, pour voir des Disney, par exemple, c'était extrêmement puissant. En termes de sensations, d'émotions, de fenêtres sur le monde. Et c'est resté peut-être alors parce que c'était un moment heureux en famille et puis aussi parce que c'était la possibilité de rebattre les cartes, en quelque sorte, le métier artistique et une ouverture sur le monde, c'est-à-dire des rencontres, des voyages, d'autres univers. Donc au début, j'ai pas pensé vouloir faire comédien parce que ça paraissait trop lointain. Mais inaccessible. Donc, comme j'étais assez doué en dessin, je rêvais de faire les beaux-arts. Et je me disais qu'un métier artistique, c'était une façon de changer le cours de ma vie.
Et si je suis bien renseigné, pareil que aussi, tu créais des objets en bois.
À l'époque, quoi, quand j'étais petit, j'inventais plein de choses. J'inventais beaucoup. Alors oui, quand on était en banlieue, il y avait un espace où il y avait un établi et je me suis mis à travailler le bois. Alors, je fabriquais tout, mais je fabriquais aussi des armes. Je fabriquais des arbalètes, des trucs moins cool. Mais je trouvais des systèmes un peu ingénieux. J'aimais bien. J'ai toujours eu un petit côté plus ingénieur que littéraire. Et c'est peut-être pour ça que j'ai décidé d'être comédien, un peu pour lutter contre une nature qui aurait tendance à s'isoler ou à se retrancher derrière des mécanismes. Oui, peut-être c'est une espèce de chercher la contrariété, aller vers ce pourquoi je suis pas forcément le plus doué, mais qui du coup me fait beaucoup rêver. Donc les raconteurs d'histoires, ceux qui créent des fictions, les acteurs, ceux qui montent sur la table pour se faire remarquer, quoi.
À propos de se faire remarquer, j'ai lu que t'avais un prof de français qui chaque mercredi voulait que ses élèves se fassent remarquer entre guillemets.
C'était génial ça.
Et qui demandait de raconter une histoire en public, ce qui était un petit peu gênant au départ, mais qui s'est révélé être une
Alors, révélation. En fait, c'était plus précis que ça. Et il nous demandait de faire un poème chaque mercredi, et ça comptait vraiment, parce que c'était noté sur 20. Donc, il l'avait pas mis comme un truc accessoire. Il l'avait mis vraiment comme une matière sur laquelle tu pouvais gagner des points ou en perdre. Et chaque mercredi, il fallait apprendre une poésie. Alors, évidemment, tu fais la gare des Michards, hein, le bouquin de troisième, et puis très vite, tu l'épuises. Et on commence à écrire, on a commencé à faire des sketchs, on a commencé à faire des propositions très différentes, c'est-à-dire prendre des chansons qu'on faisait en poème. À un moment, j'ai fait du mime. Bon, on pouvait le faire qu'une fois, mais ça marchait. Qu'il y en a un autre qui avait rien bossé, mais du coup, il l'enregistrait sur un magnétophone. Il arrivait, il a posé le magnétophone, il allait s'asseoir. Évidemment, il a eu 20 parce que l'idée était géniale, mais sauf qu'on ne pouvait pas le refaire derrière. Donc, il notait, il valorisait aussi l'originalité, la création, l'audace et le travail, bien sûr.
C'était le théâtre de Bouvard à la fin de ce cours de français.
C'était une super école d'expression artistique. Et donc, où chacun avait un moment, un espace pour s'exprimer, mais il était obligé de le faire. C'est ça qui était bien. C'était pas considéré un petit peu comme un petit loisir. Dans ma tête, et je pense dans la tête des autres, hein, ça a ouvert quelque chose, quelques portes en tout cas.
Et les Beaux-Arts, du coup, t'y as pas atterri. Est-ce que c'était l'époque où l'âge changeait chaque fois pour l'admission d'entrée?
Oui, c'était terrible. Chaque fois que j'arrivais, début, il fallait avoir 16 ans, donc j'attendais d'avoir 16 ans. Quand j'ai eu 16 ans, ils ont dit non, finalement, c'est 18 ans. Et puis à 18 ans, il fallait avoir le bac après. Puis je me dis, mais j'y arriverai jamais. Et au moment où je commençais à être prêt, j'étais confronté. Alors, c'était les Beaux-Arts de Paris. J'étais confronté à des gens qui avaient des dossiers incroyables, qui avaient pris des cours de dessin à l'extérieur. Enfin, moi qui habite en banlieue, j'étais complètement largué. Et là, je rencontre des mecs qui font du théâtre. Je dis, oh, c'est génial ce truc. On peut faire, il y a des écoles, on peut faire des cours et tout. Hein. C'est super. Et puis, c'était une bande de garçons, de filles. Donc, tout d'un coup, il y avait quelque chose d'assez, je sais pas, hein, d'assez libre. D'assez séduisant, de rencontres, ça m'a beaucoup plu, donc je suis allé prendre des cours de théâtre.
T'es allé à New York même, pour perfectionner ton anglais et...
Oui, j'avais fait un stage d'un professeur de l'Acteur Studio à Paris, et je lui ai dit, mais ça me dirait bien d'aller à l'Acteur Studio à New York, et donc il m'avait fait une lettre pour être accepté, quoi, en auditeur libre. Là-dessus, j'ai commencé à rencontrer des gens, donc je traîne un peu dans le milieu du théâtre là-bas, mais tout en travaillant, parce que j'étais coursier, bike messenger. Et donc à New York, ça se fait à vélo, c'était assez rigolo. Mais c'était dur, mais en même temps, j'aimais bien cette dureté, parce que, surtout l'hiver, dans le climat, quand il fait très froid là-bas, mais j'aimais bien, j'étais dans la ville, j'étais dans cette action, puis c'est une ville mythologique, en fait, parce que qui a été filmée tellement de fois, et donc c'était un écho à des films qui me parlaient beaucoup, donc tout d'un coup, j'étais projeté dans ces films. Et ouais, il m'arrivait plein de trucs rigolos à ce moment-là, et puis j'ai joué au théâtre là-bas aussi. Un jour, j'ai livré une lettre à De Niro. Enfin, non, j'ai plein d'anecdotes sur cette période-là.
Quand t'es coursier à New York, tu fais vraiment partie du microcosme de la ville. Enfin, tu fais partie intégrante de
sa vie. Ouais. Ouais. En plus, j'avais plus d'argent, donc je vivais à Harlem. Et Harlem, c'est là que je rencontre en fait les communautés africaines francophones. On vit ensemble, et donc il y a des mecs de Côte d'Ivoire, des Sénégalais, puis on se fait à manger. Ils ont tous les plans boulot, déménageurs, vendeurs de t-shirts et tout. Puis c'est là que, avec eux, on va commencer à faire un peu notre place, et puis ils ont les boulots de coursier aussi, enfin, ils ont toutes les bonnes adresses, et c'est marrant, je suis le seul blanc, donc dans la rue on me prend pour un dealer ou un flic, et le tout c'est de marcher la tête haute en ayant l'air sûr de soi, parce que c'était un peu dangereux quand même, ça tirait, ça pouvait être violent, mais c'était anecdotique en même temps, parce que ça faisait partie de l'aventure, moi j'aimais bien.
À propos d'anecdotes, tu l'as souvent raconté, l'histoire avec De Niro, tu devais livrer une lettre, tu pensais vraiment remettre en main propre.
Bah oui, on vous dit c'est au cinquième, vous arrivez au cinquième, on dit c'est au bout du couloir, vous allez au bout du couloir, on dit mais on se rapproche du bureau de De Niro, là, la lettre, il y a marqué Robert De Niro dessus. Et là, d'un coup, il y a une espèce de Cindy qui arrive, bonjour, elle prend la lettre et thank you, et puis elle s'en va. Et je vais le retrouver quelques années plus tard dans un film, The Bridge of St. Louis Ray, et on va jouer ensemble. C'est dingue. Bon, le film n'est pas très bon, mais...
Il n'est pas en évêque, lui, dedans, ou quelque chose comme
ça. Il est en évêque. Il y a Jim Sheridan. Jim Sheridan, c'est lui qui avait réalisé Au nom du Père, avec Daniel Day-Lewis, chef-d'œuvre. Et il est là. Et les deux font de la figure dans ma scène. Mais je sais, c'est drôle parce que je ne me rends pas compte. J'ai une scène avec Emily Deakin où je tourne autour d'elle. Je vais expliquer un truc. Alors, c'est assez rigolo parce que c'est la cour d'Espagne. Je ne sais plus à quel siècle, d'ailleurs. On va dire au 16e siècle, quelque chose comme ça. Et donc, je fais une espèce de... d'homme de cour avec une, vous savez, la perruque à rouleau. Et je suis en train de tourner autour d'Emily Deakin en lui expliquant tout un truc en anglais. Et à un moment, je me retourne, j'avais pas du tout fait gaffe, parce que la scène s'était un peu préparée sans nous. Je me retourne et je vois De Niro et Jim Sheridan en train de faire de la figure dans la scène. Et là, il y a De Niro en évêque qui me regarde. Je reste un peu bloqué. Il me fait un petit signe de tête, genre en plissant des yeux. Genre, vas-y, continue. Et j'enchaîne tout en me disant, il y a De Niro qui fait de la figure dans ma scène, quand même. Là, c'est drôle, c'est des anecdotes marrantes. Après, j'ai des scènes avec Kathy Bates. C'était fou, en fait, en y repensant. Et on les voyait travailler aussi. Ça qui est intéressant, voir De Niro travailler, c'était inspirant.
Bon, après, il y a eu tous ces films au cinéma que tout le monde connaît. Et puis, je me souviens d'une époque où, je crois que c'est le Gorafi qui avait fait un article sur toi et où tu avais répondu en vidéo. J'avais trouvé ça extraordinaire. C'est des anecdotes que les gens connaissent un peu moins.
Oui, parce que en fait, c'est pas, il y a pas eu de réponse à la réponse. Ben, moi, j'attendais un retour. Enfin, je me disais, tiens, je vais leur faire une bonne réponse. Donc, en fait, voilà, ils avaient dit Samuel Le Bihan est mort, mais en fait, c'était le talent de Samuel Le Bihan est mort, et ils l'avaient fait comme une grosse news, un événement, voilà, comme si l'acteur était mort. Et je suis allé à la recherche des homonymes, et j'ai trouvé un homonyme, Samuel Le Bihan, qui est en Bretagne, et je suis allé le voir. Et donc, il était pompier à Pontrieux. Et je le vois, je dis, vous appelez Samuel Le Billon? Il me dit, oui, je peux voir votre carte d'identité, la montre. Alors d'abord, je le cherche, je vais dans tout le village, je vais chez le coiffeur, tout ça, et je parle aux gens. Puis c'est assez drôle, parce que je cherche Samuel Le Billon, et tout le monde me reconnaît en même temps. Et en même temps, tout le monde le connaît. Tout le monde sait qu'il y a un pompier qui s'appelle Samuel Le Billon. Je le retrouve, on discute, c'est rigolo. Je lui dis, ah, il paraît que vous êtes mort. Mais non, pas du tout. Et on commence à discuter. En fait, je vais... Et alors, ça finit en déconne un petit peu. C'était une espèce de réponse un peu ironique au fait de trouver le Samuel Le Billon qui est mort. Et j'aurais bien voulu que le Gorafi réponde à ça, qu'il y ait une espèce de joute qui se fasse, mais non, il n'y a jamais de réponse. Pourtant, moi j'aime bien, ils peuvent être drôles parfois, et en fait, mais bon, voilà.
Ça blesse ce genre d'article quand même.
Ouais, sur le coup...
La famille peut-être.
Oui, en fait, tout le monde m'appelait en croyant que j'étais mort, en fait. C'est pas tant moi qui étais blessé, c'était tout le monde autour qui tout d'un coup s'inquiétait. Moi, je me demandais, si je suis mort, est-ce que je continue de payer des impôts ou pas? Parce que, tenez-moi au courant. Oui, ben, c'est peut-être qu'une période où je faisais pas des choses qu'ils appréciaient, ça, c'est sûr.
Bon, en tout cas, t'es loin d'être mort, t'as fait énormément de choses. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, Alex Hugo, depuis quoi, 2015 maintenant, des téléfilms, enfin, il y a toujours plein de choses avec toi. Donc, je vais en revenir au téléfilm « Tu ne tueras point ». Donc, tu l'as dit, ça part de l'handicap, mais je vais parler de l'autisme, c'est quand même le sujet. Est-ce que tu pourrais vulgariser ce qu'est l'autisme? Je sais que c'est quand même très difficile à faire.
Ouais, ça c'est difficile à vulgariser. En gros, c'est une déficience du génome. C'est sur notre chaîne d'ADN... Ben, il manque des séquences. Un autiste, il lui manque des séquences. Et donc, il y a des liaisons dans le cerveau qui se font pas bien. Et surtout sur les échanges entre êtres humains, ben, ce qu'on appelle les échanges sociaux, la compréhension du monde extérieur. Et ça passe par une autre sensibilité, une autre compréhension du monde, une autre lecture du monde, en fait. Les sens marchent pareil, mais l'interprétation est différente. Et là, il y a plein de niveaux. Hein. Chaque autiste est très différent. Chacun a une sensibilité très différente, des talents très différents. Attention, faut pas croire, l'autiste, c'est des surdoués. Hein. C'est-à-dire que ça, c'est extrêmement rare. Les Rainman ou les gens à haute capacité, c'est une autre catégorie. Extrêmement rare. En vérité, c'est beaucoup plus des déficiences intellectuelles, des fragilités, des incapacités à être autonomes.
Repli sur soi, peut-être aussi.
Oui, alors après, il y a ça aussi. Comme on comprend pas le monde extérieur, ben on se replie sur soi. On communique pas. Aux États-Unis, ils ont beaucoup travaillé sur des méthodes d'apprentissage qui ont fait leurs preuves, que les parents ont ramené en France. Et donc, ça a pu aider énormément d'autistes à sortir de leur bulle, à comprendre un peu mieux les échanges sociaux, à trouver leur place aussi. Parce que c'est ça qui est important dans cette société, quelle place on leur donne. Et puis, il faut à la fois que la société, faut qu'elle fasse un chemin. Et puis, leur donner les méthodes de travail qui puissent leur permettre d'évoluer. Et puis aussi, adapter, par exemple... notre monde professionnel, notre école, des endroits pour faire de la détection. Pour, bah voilà, c'est sur quoi j'ai pas mal travaillé aussi.
Toujours pour vulgariser un peu et voilà, transmettre un maximum d'informations à ceux qui nous écoutent. Un enfant diabétique est pris en charge à 100%. Un enfant qui est atteint d'autisme, non, je crois.
Oui, il y a plein de choses qui ne sont pas remboursées, ouais, c'est sûr. Non, il y a beaucoup d'injustices dans ce milieu-là. Beaucoup de souffrance et beaucoup d'injustice, justement de la souffrance parce que les parents se sentent à la fois abandonnés, qu'il n'y a pas de structure, qu'elles sont surchargées. Et ensuite, surtout, c'est qu'il y a plein de choses qui ne sont pas du tout remboursées. Il y a plein de cas, il y a aussi un peu d'arnaque là-dedans entre certains éducateurs. Il faut plutôt bien tomber sur les bonnes personnes. Vous êtes tout seul, un peu isolé, à tâtonner et à faire des fois des bonnes rencontres, des fois des mauvaises. Non, il y a une vraie injustice.
C'est exactement ce que j'allais te demander, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'arnaques, enfin ça existe depuis toujours, mais qui touchent beaucoup les personnes désespérées, et on le voit dans le téléfilm justement, les parents d'enfants autistes le sont forcément un petit peu, et certains veulent s'engouffrer dans la brèche et vraiment les arnaquer. Et aussi, en plus, des spécialistes culpabilisent les parents, notamment les femmes.
Ouais, alors ça c'est je dis avant, parce que ça existe quand même encore un peu, mais ça il faut que ça cesse, puisqu'on sait, maintenant on l'a prouvé, hein, c'est Thomas Bourgeron, à l'Institut Pasteur, qui a trouvé le génome de l'autisme dans la chaîne d'ADN. Donc ça, c'est acté par la science. Mais avant, c'était la psychanalyse qui vraiment s'était insérée dans le milieu médical et qui considérait que l'autisme, c'était un problème relationnel entre l'enfant, le bébé et la mère. Ce qui est dégueulasse. Parce que c'est encore une fois son de culpabiliser la mère, les femmes, et comme si on allait soigner l'autisme avec des mots, ce qui n'est évidemment pas le cas. Et ensuite, ils ont développé tout un tas de méthodes, soi-disant, pour donc comme le packing, c'est-à-dire c'est enrober le patient dans des linges humides à 10 degrés, donc On le met dans de l'eau froide, en gros, pendant un certain temps. En gros, c'est de la torture, quoi. Sous prétexte que ça pourrait réveiller le cerveau. Donc, il y a eu des choses horribles comme ça qui ont été faites, de mettre les enfants dans des hôpitaux psychiatriques. Donc, il n'y avait aucune méthode pour les aider à évoluer. Et donc, éventuellement, évidemment, ça faisait des adultes en incapacité totale d'être dans notre monde.
Tu parlais de méthode comportementale venue des États-Unis. Tu as parlé des mamans. Je crois que c'est ces mamans-là qui se sont battues pour faire venir ces méthodes en France.
C'est clair. C'est clair, depuis 30 ans, si la France a limité son retard, parce que la France était très en retard, mais si elle a limité son retard, c'est parce que malgré les médecins, ce sont des parents qui ont ramené des méthodes des États-Unis et qui ont dû se confronter à une médecine très empreinte de psychanalyse, qui refusait d'accepter de se remettre en question et d'accepter que des méthodes fonctionnent et donc d'accepter de perdre un peu de leur pouvoir dans le sens où ils avaient une autorité absolue. Et donc on mettait en question leur autorité et ça a été une lutte. Moi je suis arrivé après, mais le combat avait été mené et il s'est gagné, mais pas à pas, vraiment. Donc aujourd'hui, le gouvernement a tranché. Donc la haute autorité de santé a décrété que de toute façon, l'autisme, voilà, c'est une maladie. Une maladie, c'est un trouble neurodéveloppemental. Et ça, c'est indiscutable. Mais je pense qu'il y a encore des régions en France où vous allez faire diagnostiquer votre enfant en disant j'ai un petit problème, mon enfant, je sais pas, je capte pas le regard, il parle pas, il a des attitudes étranges. Où le médecin va commencer à remettre en question la relation de la mère. Il va lui dire mais comment vous l'avez élevé au sein ou voilà, il trouvera toujours quelque chose à redire. Est-ce que vous l'avez vraiment désiré cet enfant? Vivement que tout ça soit derrière nous.
Quand tu dis à la traîne, j'ai pas envie de hiérarchiser, mais juste pour donner un ordre d'idée à ceux qui nous écoutent, la France est à la traîne par rapport à des pays anglo-saxons considérés comme puissants, mais aussi par rapport à l'Italie, par exemple, je crois.
Ouais. Il y a des pays qui ont fait des choix forts et qui sont engagés très fort sur la question de l'autisme et du coup du handicap, hein, ça va ensemble. Ouais, je vous dis, la France, on ne sait pas pourquoi. C'est-à-dire, l'histoire de la psychanalyse, c'est dans les années 50, ça a été un peu décrété aux États-Unis comme ça. Puis très vite, ils se sont rendus compte que c'était n'importe quoi, que c'était une fausse piste. Donc ils sont revenus en arrière en disant non, mais. Voilà, c'est pas un problème psychanalytique. Et sauf la France s'est emparée de ça et c'est resté très ancré, même c'était écrit dans les manuels de médecine. Donc ça a été long et ça nous a mis en retard parce qu'on refusait la remise en question. Aujourd'hui, ça va mieux, mais on ne fait que rattraper un retard déjà établi aussi.
Et ça va mieux grâce à la société civile et à l'acharnement de certains parents, quoi.
Ah ouais, vous savez qu'il y a eu énormément d'associations qui ont été créées pour prendre en charge, pour créer des structures d'accueil, pour encadrer les enfants, pour leur permettre d'évoluer avec des orthophonistes, des ergothérapeutes, des psychomotriciens, toute une batterie d'experts qui viennent aider votre enfant, comme un pilote de Formule 1, à évoluer et à sortir de sa bulle et à rentrer dans notre monde, dans notre société. À trouver une autonomie et une place, en fait, dans notre société.
C'est ça, parce que même si des choses ont été faites sur le repérage précoce, la scolarisation, bah, de facto, l'insertion dans le monde professionnel est à la traîne aussi, et il faut conduire à certaines autonomies, et pourtant, on a l'impression que certains veulent plutôt les isoler, les enfermer.
Bah, c'est toujours plus simple de cacher les vieux, les malades, les fous. C'est-à-dire, avant, bah, dans un modèle familial, il y avait tout le monde, hein, les grands-parents étaient là, les enfants, voilà, ceux qui étaient... Puis on avait des différences très claires entre les différents caractères. T'avais des enfants plus guerriers, d'autres plus fragiles, plus tendres, plus poètes. Et aujourd'hui, on a tendance à mettre les gens dans des cases et puis à cacher, à virer tous ceux qui sont un peu plus faibles, en fait. En se disant que bah, dans le fond, ils sont mieux là, quoi. Par exemple, les vieux, on les met dans les maisons de retraite, certes. Peut-être que techniquement, c'est plus approprié, mais à un moment, ce qui fait la différence, c'est l'amour. Hein. C'est la tendresse, c'est l'attention, c'est l'amour. Et que ce soit un autiste, que ce soit un handicapé, que ce soit un vieux, que ce soit qui que ce soit, c'est-à-dire on est des animaux sociaux. Et donc, à partir du moment où on explose le modèle familial, comment on s'occupe des plus fragiles? Comment on s'occupe d'eux dans le sens de la tendresse, de l'amour, de l'inclusion? C'est la question.
En plus, les gens veulent exclure.
Notre société est compétitive. Moi, j'accuse pas les gens, c'est pas de leur faute. Je veux pas culpabiliser qui que ce soit. Je veux juste qu'on s'en rende compte, se dire ouais, quand même, c'est vrai que ça déconne un petit peu comment ça évolue. On est tous victimes, et moi le premier. On le voit bien, même dans les réseaux sociaux. C'est-à-dire, faut se montrer sous son meilleur jour, faut donner envie. Sinon, les gens ne vous suivent pas. Si vous ne donnez pas envie, même moi, c'est-à-dire en tant qu'acteur, il faut que je montre que je fais des trucs super. Voilà. Parce que je suis obligé d'avoir un réseau social, je suis obligé de m'en occuper. Sinon, quelqu'un va mettre un faux compte et de toute façon, ça va partir en vrille. Et même en étant là, il y a encore des faux comptes, il y a des arnaques, des escroqueries. Enfin, et donc, il faut s'en occuper. Et en s'en occupant, on se rend compte que c'est un monde de mise en scène. Mais ça raconte quoi ? Ça nous rend compte que notre société, de plus en plus, va vers la recherche de likes, de validation, et donc de perfection, et donc dans une compétition terrible. Et comme tout le monde est dans la compétition, c'est difficile d'accepter la fragilité. On l'accepte même pas sa propre fragilité. Donc comment on peut accepter celle des autres ?
Il faut dire aux gens que c'est un coût d'enfermer les gens qui se plaignent toujours de ce qu'ils prennent en charge avec leurs impôts.
Ah oui, c'est sûr. Ouais, absolument. Je vois que tu as fouillé le sujet, c'est bien. Absolument. C'est-à-dire, vous mettez quelqu'un dans un centre toute sa vie, mais ça va coûter une fortune. Vous lui apprenez, vous lui donnez les bonnes méthodes pour apprendre à être à l'école et ensuite trouver un travail. Donc, ça veut dire parler, se situer, apprendre les bons gestes. Enfin, vous l'aidez à sortir de sa bulle, à gagner en autonomie. Donc, c'est le coût d'un éducateur, c'est le coût d'accompagnant à l'école et autres. Mais ça coûte beaucoup moins cher à la société d'avoir quelqu'un qui s'inclut que quelqu'un qui va rester dans un centre toute sa vie. On peut faire le calcul très rapidement, hein, ce que le nombre d'infirmières qu'il va falloir, la nourriture, le nettoyage, le lieu. Et donc la société, il gagne vraiment à mettre les moyens de sortir les gens. Mais sauf que c'est un plus gros coût à court terme. Alors qu'enfermer, c'est un coût à long terme. Qui est beaucoup, la facture est plus lourde, mais c'est à long terme. Donc ça tombe dans un autre gouvernement, enfin, dans le fond. Donc on met la poutière sous le tapis en se disant, bon, voilà, le problème sont pour les autres.
C'est ça, alors que de laisser les gens en société, l'être humain s'adapte, le mimétisme fait le reste, on apprend des autres.
Moi, je pense qu'il ne faut pas se couper de nos différences. C'est super important. Se couper des vieux, se couper des vieux. Quand je dis ça, déjà, je me dis... Non, mais... Si on n'a pas la conscience de la fragilité de l'existence, si on a l'impression que si on veut se persuader qu'on sera immortel et qu'on ne vieillira jamais et qu'on va vivre dans un monde de beauté, de luxe, de désir, en fait, c'est ça, hein, Instagram, c'est le désir. On se ment à soi-même, on le sait dans le fond, et on ne fabrique pas du bonheur, on fabrique de l'angoisse. Et donc, ce n'est pas la solution pour être heureux. Je pense que la solution pour être heureux, c'est le vivre ensemble. Et avec nos différences et les accidents de la vie. Bon, il faudrait réussir à ça. Je n'ai pas la méthode, hein, je le dis, mais je n'ai pas la solution. Et moi-même, je suis pris dans cette compétition comme tout le monde.
Bon, les gens vont se demander pourquoi tu es si calé sur le sujet. Tu l'as dit dans les médias et je ne veux pas être du tout intrusif. Tu as une fille qui est d'autisme, qui a 12 ans.
Bah ouais, qui a 12 ans, qui est à l'école, qui est hyper bien accompagnée. Enfin, j'ai beaucoup travaillé à ça, qui me surprend tous les jours. C'est une guerrière. Elle, pour elle, le boulot, il est 10 fois plus compliqué que pour nous. Et elle le fait, et elle a progressé de façon miraculeuse, et elle continue tous les jours de m'épater. Et toute petite, ben, elle ne parlait pas, elle s'automutilait, elle ne mangeait pas, ben, elle ne mangeait aucun truc, elle ne mangeait que du lait. Et doucement, on l'a amenée à découvrir plein d'autres choses. Ça a été une longue expérience, un long voyage, mais aujourd'hui, voilà, c'est quelqu'un d'épatant. Elle est très solaire, lumineuse, elle a des amis... Je dis pas que c'est simple, parce que évidemment, elle est pas comme tout le monde. Et donc, ça reste fragile, surtout quand on aborde l'adolescence. Sur la question du harcèlement, à l'école, les enfants, eux, ils sont dans une compétition encore plus forte pour s'affirmer, pour exister, pour pas se faire afficher par les autres. Donc, on veut rentrer dans la norme, mais en même temps, on veut être leader. Et donc, pour ça, on s'appuie sur les plus fragiles. Donc, c'est pour ça qu'il y a du harcèlement. C'est pour s'affirmer. Donc, il faut faire attention à ça. Il faut à la fois que je la mette dans la fosse aux lions, mais en même temps que je l'en protège quand c'est le moment. D'ailleurs, il faut qu'elle apprenne de la vie. Donc, je ne peux pas la surprotéger. Mais en même temps, il faut que je juge du moment où il faut agir de façon à la protéger. Donc, je fais de mon mieux. Comme tous les parents déjà. Mais bon, là, la situation est plus délicate.
Et tu as parlé de ses progrès, je crois que ses progrès les a fait aussi grâce à ce maillage associatif dont on a parlé tout à l'heure.
Ouais, clairement. Moi, j'ai bénéficié de ce combat, de 30 années de combat des parents en France qui ont fait évoluer les choses malgré les gouvernements et qui ont milité, qui ont construit, fabriqué, tissé les maillages de bonnes adresses. Et moi, je suis arrivé après le combat, j'en ai profité. Donc oui, après, sûrement tu vas aborder le sujet, j'ai voulu renvoyer l'appareil, mais et on va voir comment. Oui, et c'est grâce à ça que ma fille a été prise en charge très rapidement, très jeune, et qu'elle a pu évoluer très très vite, grâce à ça.
On va parler de comment tu renvoies l'ascenseur, mais tout simplement, je voulais savoir si tous ces progrès, comment elle évolue, etc., ça révélait en toi une part insoupçonnée, une façon d'être, de faire, d'être organisé.
Sûrement. Alors moi, je me rends pas compte. Je pense que je suis beaucoup mieux organisé qu'avant. J'ai revu mes priorités et je pense même vis-à-vis du succès, je regarde ça avec une certaine relativité. Même si c'est important, moi, pour travailler, j'ai besoin du succès. Donc, je peux pas regarder ça comme quelque chose de superficiel. Au contraire, c'est très important, mais savoir ce que ça vaut. Et ce que je disais, ça peut être générateur d'angoisse. Donc, faut savoir le mettre à la bonne place. Ensuite, je dis souvent, mais ça a sorti le meilleur de moi-même. Mais je n'en sais rien, en vérité. Des fois, j'ai l'impression d'être avec les mêmes défauts perpétuellement, d'essayer de faire mieux que mes parents. Et dans le fond, j'ai pas l'impression d'être mieux. Je pense que c'est très inspirant aussi. D'avoir une fille qui donne plus, qui se bat plus que les autres, ça vous fait la leçon. Vous dites, bon, ben, faut peut-être que je me retrousse les manches, donc ça vous rend un peu plus courageux.
Et chaque victoire, elle doit être vécue de manière
incroyable, victoire. Bah intense. Oui, tout d'un coup, votre enfant va au collège et pouf, vous vous cachez pour pleurer dans un coin, quoi. Tout est dingue.
Je te coupe, pardon, mais quand tu dis ça, c'est quand la directrice du primaire te dit qu'ils envisagent le collège pour ta fille.
Ouais. J'ai tellement jamais cru même qu'elle irait à l'école que le jour où ils parlent du collège, je suis tellement ému que je me planque, ça dure deux secondes, mais quand même, quoi. Ouais, ça m'a vraiment fait remonter des choses. Parce que on a traversé toutes ces années ensemble, à travailler, à voyager, à s'adapter, à chercher des stratégies. Je la vois, elle, comment aussi elle développe ses propres stratégies pour être incluse, pour trouver des amis, pour participer, parce que maintenant, elle y a pris goût. Hein. Et tout d'un coup, qu'on émette l'idée qu'elle puisse avoir un cursus scolaire, moi, ça me... Je ne l'ai même pas vécu comme une victoire, je l'ai vécu pour elle, ça m'a ému pour elle, pour les possibilités que ça lui donne. Quoi. Voilà, qu'elle évolue. En fait, c'est ça, hein, votre bout de chou, vous avez juste envie qu'il soit heureux, qu'il trouve sa place dans la société, qu'il ne se fasse pas écraser ou exclure.
En tout cas, de cette résilience est née la plateforme Autisme Info Service que tu as cofondée avec Florent Chapelle.
Absolument.
Mais moi, je voulais savoir qui c'était. Florent Chapelle, parce que chaque fois tu le cites, mais personne ne te demande, donc je voulais savoir qui c'était.
Florent Chapelle, c'est le papa d'un enfant autiste aussi. Il a travaillé à beaucoup d'associations, il a développé beaucoup de choses et il est important dans le milieu de l'autisme. Moi, j'ai été invité à pas mal d'événements et à chaque fois, je voyais plein de familles qui arrivaient juste pour parler, juste pour communiquer avec les autres. Et je me dis, mais il posait tellement de questions, il voulait savoir tellement de choses. Je me dis, mais comment ça se fait qu'il n'y a pas une plateforme qui permette de réunir de l'information, de parler, de l'écoute, un lieu dans lequel on pourrait réunir toutes ces associations qui ont été créées, définir les bonnes méthodes, travailler en partenariat avec le gouvernement. Et donc il me dit, oui, j'ai travaillé là-dessus et je l'ai appelé Autisme Info Service. Voilà, un nom générique. Très simple à comprendre, 0800 71 40 40. Et donc, on a commencé à mettre ça en place, on est allé chercher de l'argent, il a fallu convaincre. Ça a été des fondations d'abord qui nous ont aidés. Maintenant, c'est pris en relais par le gouvernement parce qu'on a réussi à prouver qu'on était un service public. Et donc, ce sont des répondantes qui écoutent, qui échangent, qui connaissent très bien le sujet, qu'ils vivent aussi, pour certaines. Derrière, il y a toute une batterie de spécialistes. Donc ça, c'est sur des questions un peu spécifiques, répondre dans les 24 heures par mail. On constitue un annuaire de tout ce qui concerne l'autisme en France, savoir si vous cherchez un dentiste pour votre enfant autiste ou une activité. Il y a de l'équithérapie, il y a de la peinture, il y a des choses qui existent, qui sont cadrées par des gens formés. Et c'est créer un lien avec toutes les associations qui ont été faites, toutes les méthodes, qu'est-ce qu'il y a. J'habite dans les Vosges, qu'est-ce qu'il y a à proximité pour mon enfant ou pour mon frère ou, voilà. Donc c'était ça le but et puis ça a fait son chemin. C'est en 2019 qu'on a monté ça. Ça fait 5 ans, on a dû aider 40 000 personnes aujourd'hui. Donc c'est pas rien quoi. Donc,
dispositif gratuit, une sorte d'annuaire de professionnel, informé sur des questions, tu l'as dit, de loisirs, médicales, juridiques, bref toutes les questions que toi...
Social, constituer un dossier MDPH... à croire, pour avoir le droit à des aides, un accompagnement, être identifié par les structures administratives.
Quand tu as été confronté à toutes ces choses pour ta fille, tu as senti une carence, quoi. Ça n'existait pas du tout.
Oui, on m'a aidé. On m'a aidé à comprendre comment remplissait le dossier. Enfin, oui, on m'a accompagné, on m'a aidé.
Donc financé par des fondations départ, pris en relais
par le gouvernement,
c'est génial.
Ouais.
Vous savez combien de personnes vous avez pu aider?
Ouais, je disais 40 000. On a à peu près, je ne sais plus combien de visites par mois, c'est énorme. Je ne sais pas s'il n'y a pas 30 000 visites sur le site par mois. Et sur 5 ans, on a aidé concrètement 40 000 personnes. Ouais, c'est une belle victoire.
En plus, tu m'as dit 2019, Covid derrière, ça a dû aider d'autant plus.
Il y a eu des vraies questions qui se posaient sur le Covid. D'abord, beaucoup d'écoute. Beaucoup d'écoute. Parce que les gens étaient, avaient une surcharge, en fait, comme les centres d'accueil étaient fermés. Ils se retrouvaient avec leur enfant à la maison et ils n'avaient pas le droit de sortir. Donc, il y avait des grosses tensions qui se faisaient. Donc, on a obtenu du gouvernement que les autistes puissent sortir, avoir le droit à un moment d'enlever le trop-plein de stress, donc pouvoir sortir, se balader, pendant un temps défini avec une autorisation spéciale. Mais voilà, on a obtenu ça. Et ça a été un moment ouais, où, là, pour le coup, la plateforme a vraiment montré son utilité puisque c'était dématérialisé, c'était à distance, et là, on pouvait œuvrer. Et puis, il y a eu des questions de droit aussi, des gens qui étaient obligés d'aller au travail mais qui avaient leur enfant à la maison. Alors, quels sont mes droits ? J'ai un enfant handicapé, mon patron m'oblige à aller au travail, sinon il menace de me licencier, mais mon enfant, le centre est fermé, donc je dois m'occuper de lui à la maison. Quels sont mes droits ? Et oui, il y a des droits là-dessus. Hein. Et donc là, on avait les réponses juridiques.
Il y a aussi eu un bouquin, Un bonheur que je ne vous souhaite pas.
Un bonheur que je ne souhaite à personne.
Que je ne souhaite à personne, pardon. Que tu as commencé à écrire après un atelier d'écriture, Engrenage et fiction.
Oui, avec Charlotte Ponce.
Et ça a plu à Flammarion, et go quoi.
Voilà, et go, on a écrit le livre. Ouais, c'était une belle aventure, ça. Je me levais à 5h du matin pour écrire, jusqu'à 10h, voilà. Et j'adorais ce moment. C'était un moment pour moi. Je rentrais dans un univers et je devenais complètement obsessionnel avec ça. Et j'ai écrit l'histoire de cette mère qui se bat pour que son enfant aille à l'école. Je voulais en faire un film, mais j'ai pas réussi. Mais en tout cas, j'en ai fait un livre. Donc, c'est pas mal.
T'as écrit un personnage que tu pourras jamais camper au cinéma, finalement.
Oui, c'était drôle parce que je me suis même amusé. Bah oui, c'était assez de merde, donc je me dis bon bah ça, il y a pas de risque, hein, on risque pas de me donner le rôle. Mais c'était aussi d'écrire les sensations d'une mère, de ses espoirs, ses déceptions, ses doutes, parce que c'est à la première personne du singulier, donc je me mettais complètement à sa place. Même le moment où elle rencontre un homme, elle fait l'amour, elle reconnecte avec le plaisir. Donc, comment imaginer ? Alors, c'était drôle de ce que comment décrire le bon, voilà, ces moments de plaisir intime, personnel, comment les décrire de l'intérieur alors qu'on est un homme. Mais c'est ça le plaisir d'un écrivain aussi, c'est de camper des personnages.
Est-ce qu'il y avait une façon aussi pour toi de rendre l'appareil à ces femmes ? Je pense à la dame qui est montée en haut d'une grue parce que son enfant n'avait pas d'AVS, c'est qui s'est accroché à une grille au collège.
Oui,
c'est ça qu'il faut avancer la cause, quoi.
Toujours une façon de célébrer le combat et surtout le combat des mères, le combat des femmes. En en parlant sous toutes sortes de formes, parce qu'à un moment, elle va aider une copine dont l'enfant a été enfermé dans un hôpital psychiatrique et elles vont le faire évader. C'est à partir d'une histoire vraie qui m'a inspiré. Donc, j'ai repris un peu, mais c'est une histoire vraie d'une mère dont l'enfant est enfermé. Elle est allée le kidnapper. Kidnapper, c'est un grand mot. Mais comme elle était anglaise, elle est partie en Angleterre. Parce qu'en France, elle a été considérée comme... Elle avait fait un enlèvement, mais c'est son fils, c'est son enfant qu'on a mis dans un hôpital, donc elle a besoin... Non, mais il y a eu des moments où la médecine a été inhumaine.
Plus qu'une mère, l'histoire d'une guerrière, j'ai envie de dire.
Ah oui, c'est clairement, j'ai célébré les guerrières.
Et en même temps, ça peut être l'histoire d'une femme du quotidien, quoi, j'ai envie de dire.
C'est des femmes qui ne sont pas destinées à endosser ce rôle, qui vont prendre les armes, comme un guerrier prend les armes. Et elles vont se battre pour leur enfant, mais de façon acharnée, parce que la société ne leur laisse pas de place ni de répit.
Et pour ceux qui se demandent quel est le style de Samuel Le Bihan en littérature, bah c'est un peu du cinéma finalement, assez imagé, des scènes courtes, discours intérieur un petit peu, beaucoup de dialogues.
Ouais, c'est vrai. Moi, j'avais une passion pour les auteurs comme Kessel, comme évidemment Jack London, donc Hemingway, David Roberts. Je ne sais pas si on connaît, il a écrit un livre qui s'appelle Shantaram, c'est complètement fou. Alors pour le coup, là, c'est plutôt des longues phrases et c'est très, très écrit, très littéraire. Mais c'est une aventure humaine. J'aime bien les auteurs aventuriers qui vivent des choses extrêmes et qui, en même temps, sont érudits. On a ça avec Sylvain Tesson aussi.
Donc, Tu ne tueras point sur France 2. On en a parlé un petit peu en off. Donc, un avocat qui va avoir une plaidoirie, c'est ce que tu voulais faire au cinéma. Comment, avec sa rhétorique, il fait pencher la balance. Et une scène, sans trop spoiler, voilà, où la plaidoirie, c'est un peu le moment clé. Ça a dû être aussi difficile à faire que satisfaisant à regarder, non ?
C'était énormément de travail. En fait, je me suis donné un défi, mais j'ai eu très peur au moment de le relever. Cette plaidoirie qui dure 14 minutes, il fallait qu'elle soit parfaite tout de suite. c'est trop long d'envisager 14 minutes et d'avoir à retravailler dessus. Il fallait que ce soit parfait. Donc, j'ai travaillé tout seul. Je tourne un autre film, Gueule Noire. Et donc, pour être tranquille, j'avais appris les deux films par cœur tout de suite avant de les démarrer pour le texte, pour que le texte soit intégré. J'ai pas de problème de texte. Donc, et donc, je pouvais travailler la journée, donc tourner Gueule Noire sans problème. Et le soir, je pouvais me consacrer à répéter les scènes de Tinture à point. Et c'était vraiment un gros boulot parce qu'en plus, je devais faire du sport pour Gueule Noire, donc j'étais épuisé. C'était très dur, les conditions de tournage étaient très dures. Mais j'ai traversé ça et, comme un défi que j'ai voulu relever. Et donc, pour La Plaidoirie, on a fait deux prises. Une vue du public, une vue du juge, avec des caméras un petit peu cachées sur le côté. Et j'avais tout donné. J'étais épuisé après ça, j'avais tout donné. Et après, on a pu enchaîner la journée. Vous savez, en fait, on a toujours le mythe de dire on va faire plusieurs scènes, mais c'est pas vrai. Ben, on va tourner, on va faire plusieurs prises. C'est pas vrai, dans le fond, vous n'avez pas le temps, il faut enquiller les scènes. Et 14 minutes, c'est long, remettre tout en place, c'est un gros boulot. Donc il fallait que ça fonctionne, il fallait que ça marche tout de suite, que je trouve mes marques. Donc je m'enfermais le soir dans le palais de justice, j'avais demandé à ce qu'on me laisse la salle. Et donc le gardien acceptait de me laisser entrer, et je travaillais tout seul dans le palais de justice, dans la salle des plaidoiries, quoi. Ben, c'est très impressionnant, le moment où vous devez vous jeter. C'est pas du théâtre, parce que le théâtre, on voit pas les gens. Là, vous voyez tous les visages qui vous regardent, qui s'ennuient, qui regardent ailleurs, mais qui décrochent. Enfin, non, là, je faisais en sorte que ça décroche pas. Mais je voulais vraiment tenir et surprendre tout le monde. En fait, je voulais les surprendre pour que tout de suite, dans les visages, on lise des choses fortes.
En tout cas, le sujet, il est fort. Voilà, t'as pitché le film tout à l'heure. Est-ce que c'est la mère dans le désespoir avec toute sa puissance qui a abandonné son enfant tuant, clairement, ou la société l'a laissé à l'abandon? Ça va susciter le débat. Il y a un débat d'ailleurs qui est prévu après ça, je le répète.
Ouais, ce qui est intéressant, c'est de poser des questions. Comme je dis, à un moment dans le film, la justice, ça sert. Un procès, ça ne sert pas seulement qu'à condamner ou innocenter. Ça sert à expliquer. Et si on ne peut pas expliquer, au moins à poser les questions et à éveiller les consciences.
J'ai lu que c'est toi qui avais proposé à France 2, du coup, fort de tes relations avec eux. C'est trop bien.
Ouais, mais j'ai des idées d'histoires comme ça, et puis ils prennent pas. Donc je leur propose des histoires, et ils ont pris celle-là. Et par exemple, là, j'ai vendu une série à TF1 qu'on vient de finir. Voilà, j'ai des idées, puis je les propose. Donc ça, c'est le succès d'Alex Hugo qui me permet ça, qui me permet de faire des propositions, qu'on les écoute, on se dit, tiens, on ne sait jamais des fois que ça marche. Et je vais chercher les professionnels autour. Je vais chercher les scénaristes, les réalisateurs. Je fais un travail de producteur. Ça me plaît bien, parce qu'à l'arrivée, on a quand même des propositions que je trouve haut de gamme, on va tirer vers le haut. Et moi, à la fois, je me crée un personnage qui me plaît, mais toujours avec un challenge à relever. Donc, je me mets pas la tâche facile, je veux quand même... qu'il se passe quelque chose dans chaque film. Donc voilà, c'est un peu ce que je propose aujourd'hui.
Alex Hugo, ça va bientôt faire 10 ans. Ça devait être un unitaire et c'est maintenant une collection. Et je crois savoir que tu aimes bien la notion d'inconfort, pas savoir de quoi demain est fait, ne pas être dans ta routine. Comment tu arrives à trouver du coup ce petit challenge à chaque fois avec les nouveaux Alex Hugo?
Alex Hugo, c'est pas difficile parce que c'est deux épisodes par an. C'est deux mois. Un épisode, c'est un mois de tournage où je sors de ma zone de confort parce qu'on est à la montagne, on est isolé de tout. Hein. Mes copains me disent, quand tu pars tourner Alex Hugo, on ne te voit plus, quoi. T'es plus là. Et on est à 7 heures de Paris, de Nice, donc 5 heures de Nice. Ouais. Et à chaque fois, comme c'est des scénarios écrits par des scénaristes différents, et réalisé par des réalisateurs différents, à chaque fois, il y a une petite compétition très saine qui se fait entre chacun. Chacun veut être un petit peu meilleur. Du coup, on en sort quelque chose d'à chaque fois assez original, avec une empreinte. Et moi, ça m'oblige à me re-questionner. Et du coup, je m'amuse. Parce que je suis là-bas et je me dis, tiens, dans quelle mesure je peux apprendre quelque chose? C'est ça l'intérêt. Sinon, j'aurais choisi un autre métier en choisissant d'être artiste. C'est que j'ai accepté le fait de se remettre en question en permanence, et de chercher à progresser.
Puis c'est un joli programme, sans avoir les budgets du cinéma, c'est quand même très beau à l'image.
Oui, on se débrouille bien, et on a de la chance, le public, parce que c'est le public qui nous choisit, là, pour le coup. On n'a pas eu de la pub, on n'a pas été soutenu. Je veux dire, là, ça s'est vraiment fait par le temps, et le public a décidé que c'était un bon rendez-vous. Donc nous, on est responsables de ça aujourd'hui aussi. Donc au lieu de nous installer dans nos lauriers, au contraire, on s'est dit, oula, on a une responsabilité.
Et tout à l'heure, en off, je te parlais de ma démarche avec ce podcast, de faire quelque chose de lent, où on prend le temps, qui contrebalance avec ce qui se fait actuellement sur Internet, les vidéos très cut de quelques minutes. Alex Hugo, j'ai regardé des épisodes, c'est quand même très contemplatif. C'est un peu le contre-pied de ce qui marche en ce moment dans les séries.
Dès le départ, dès le départ, ça a été un contre-pied. C'est-à-dire que le format qui fonctionnait très fort, c'était le 56 minutes. Nous, on était 1h30, 1h30, 90 minutes. Déjà, c'était pas du tout dans le sens de ce qui marchait. Ensuite, des scènes lentes, posées, où on, effectivement, contemplatif sur la montagne, on prenait notre temps. À l'inverse de ce qui se faisait, où c'était des très cuts, beaucoup de rythme, très dynamique, des scènes courtes, on passait tout de suite, on avait peur que le public s'ennuie. Et donc, on est allé à l'inverse de toutes les tendances, et en créant notre style, et ça a marché. Contre toute attente, hein, vraiment, contre toute attente. Mais, et nous, on en est très heureux. Parce que ce que j'aime bien dans l'idée que le succès ne s'explique pas. Tout d'un coup, le public choisit un film pour sa tendresse, pour sa poésie, pour son écriture. Et donc, il impose aussi ses critères de qualité, qu'il accepte de se faire surprendre en dehors des codes un peu à la mode. Non, tant mieux pour nous aussi.
En plus, avec un héros génial, en quête de vérité, qui fait ressortir caché les autres, un rapport avec la nature et l'environnement important. J'ai l'impression que ça te colle plutôt.
Très humain. Il cherche. Oui, effectivement. Il ne condamne pas par la loi. Il essaye de. Pour lui, la justice, ce n'est pas appliquer des articles de loi. C'est essayer de comprendre comment. En tout cas, si quelqu'un. On peut le rattraper, on peut l'aider, on peut l'aider à s'en sortir. Si est-ce qu'il est complètement condamné, finalement, il met de l'humanité à chaque fois dans chaque affaire. Et cette proximité avec la nature, qui le soigne, hein, manifestement, c'est quelqu'un de blessé, qui a besoin de ce rapport à la nature pour apaiser ses douleurs. Ce qui est vrai. La nature apaise les douleurs, vraiment.
C'est quand le prochain inédit d'Alex Hugo ?
Je sais pas, là, il vient d'en passer deux inédits, donc les prochains, non. Je sais pas. Je pense que les deux qu'on a tournés cet été sont passés. Non. Donc, on va en retourner deux cet été et ce seront les prochains qui seront diffusés.
Et pour en revenir au sujet du jour, ta fille t'a accompagné sur les Alex Hugo ?
Alors, en fait, ce qui se passait, c'est quand je me suis retrouvé à devoir m'occuper d'elle complètement, je l'emmenais avec moi, du coup. Et je la scolarisais, mais même sur les autres tournages, j'avais fait les étés 10 dans les Caraïbes. Après, on voyageait, on passait notre temps à voyager, on n'était jamais sur Paris. Et quand je tournais, je l'emmenais avec moi, je la scolarisais, je trouvais toute une batterie de babysitters, j'organisais les plannings, enfin. Et ça fonctionnait, je trouvais même des AVS pour l'école. C'était marrant, ouais, on a appris à se connaître. Hein. Et on a vécu comme ça pendant plusieurs années, jusqu'au moment où je me suis dit, il faut quand même un peu stabilisé, puis il y a des méthodes d'apprentissage qu'il faut mettre en place. Donc j'ai décidé d'habiter en province, d'habiter à Nice, pour lui permettre d'avoir un très bon encadrement. C'est quand même une grosse ville, il y a un vrai bon encadrement. Mais en même temps, on est proche de la mer, on est dans le sud, il fait beau. Elle, son élément, c'est l'eau. Donc du coup, elle peut vraiment en profiter très, très vite dans la saison. Et elle a besoin de soleil, elle a besoin d'ouverture, elle a besoin de gens qui aiment leur métier, qui sont passionnés par leur métier. Et là, à Paris, les gens sont souvent écrasés un petit peu par le rythme de la ville. Donc, en province, on retrouve des gens passionnés, puis assez libres de leur mouvement.
Est-ce que ça lui plaît, ce que tu fais ? Le métier artistique, en tout cas.
Oui, ça lui plaît, maintenant. Là, on tournait dans le sud. Mon dernier tournage, c'était dans le sud, et elle venait, après l'école, avant l'école. Oui, elle adore ça. Elle adore le plateau parce qu'il y a une vie créative. C'est ça qui est plaisant. Mais elle, son média, c'est plus le chant, la danse, la musique, beaucoup plus.
Tu as parlé du film que tu venais de tourner seul, Tu ne tueras point. Quels sont les projets
La série, là, bientôt. Finir, c'est Carpe Diem, qui était pour TF1. Donc, on a fait. J'ai deux gros projets là maintenant. Déjà, mardi, je reçois la Légion d'honneur. Donc c'est quand même,
félicitations.
J'ai envie de dire, c'est plus qu'un projet. Et pour moi, c'est extrêmement honorifique, peut-être parce que je me bats depuis des années, j'essaye de faire avancer les choses et qu'on reconnaisse peut-être cet investissement, ça me touche énormément, dans le fond. J'y suis très sensible, peut-être aussi d'un point de vue familial, c'est-à-dire d'où je viens, mon parcours, et d'avoir... peut-être, au fond de moi, j'avais envie de prendre l'étendard des Le Bihan et de le planter en haut de la colline, quoi. Et donc, peut-être ça répond aussi à ce désir-là. Donc, ça veut dire quelque chose au niveau de la société. C'est-à-dire, mon engagement, il n'est pas que dans le métier d'acteur. Distraire, c'est important, hein, c'est bien. Et ça compte. Mais mon investissement n'est pas que celui-là. Et comme j'ai aussi un investissement dans l'environnement, là, au mois d'avril, je pars le 27 avril, je prends l'avion, je vais au Népal, je vais faire un reportage sur la pollution de l'Everest. Donc, je vais aller sur les camps de base pour faire un état des lieux. Parce que vous savez, il y a tellement d'alpinistes qui veulent gravir l'Everest qu'il y a une pollution dingue, des vrais déchets plastiques, hein, une vraie problématique. Et comme moi, mon association Earthwake, on a envoyé du matériel là-bas pour recycler. Donc du coup, je vais faire un état des lieux sur ce qu'on a envoyé, sur différentes associations, puisqu'on travaille aussi en partenariat avec deux associations de plutôt jeunes, étudiants, ce qu'ils mettent en place. Et surtout à partir d'un constat sur la problématique, quoi.
Ouais, c'est une association qui recycle les déchets en plastique pour les transformer en carburant.
Alors, en énergie surtout, car on a plusieurs choix. Soit on refait du carburant ou on peut faire de l'électricité en mettant ce carburant dans un générateur, ou alors refaire du plastique neuf quand il y a la pétrochimie un peu équipée. Il faut ce qu'on appelle un vapocracker, mais on peut refaire du polymère, en fait, et neuf. Donc du coup, parce qu'il faut savoir que le problème, vous ne pouvez pas recycler le plastique indéfiniment, c'est qu'il perd ses propriétés mécaniques, il durcit, on le voit bien quand le plastique vieillit. Donc, réchauffer du plastique, c'est perdre ses propriétés. Donc nous, on en refait, on le remet à l'état liquide pour ensuite refabriquer du polymère.
Si ce que Samuel a abordé sur la dépollution de l'Everest vous intéresse, je m'adresse à mes auditeurs. J'ai enregistré avec Marion Chéniaud-Dupuis, qui a gravi l'Everest 3 fois et qui contribue en ce moment à dépolluer l'Everest via les Sherpas, etc. Elle a mis en place une charte pour les gens qui veulent le gravir, récupèrent leur matériel, etc. On a parlé de ça pendant 1 heure, très intéressant.
J'y vais au mois de mai, qui est le mois des expéditions. Et donc, du coup, toutes les associations vont être là aussi. Et on va en parler.
Et pour terminer cet entretien, Samuel, quelques questions plus légères pour te connaître sous un prisme différent.
Okay.
On a parlé en off tout à l'heure de musique, je voulais savoir. Qu'est-ce que tu écoutais en ce moment?
Ah, en ce moment,
ou ton groupe culte, chanteur?
Non, en fait, ma fille est en train de me faire redécouvrir ce que je connaissais, mais toute la musique des années 2000, la musique, je dirais, hip-hop, soul, des années 2000, donc... c'est 50 Cent, c'est Eminem, et c'est drôle, Tupac, et Destiny Child aussi, enfin, voilà, c'est très large, mais et donc elle a une espèce de connaissance musicale infernale, et donc dans la voiture, le matin, on écoute plutôt les années 2000, c'est cool. J'ai découvert un peu, avant j'étais très hip-hop, mais là j'aime bien la musique électro un petit peu. J'ai une période un peu électro, là. Après, des groupes faciles comme Justice ou tous les groupes français. Sébastien aussi, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Qu'est-ce que je peux te dire d'un point de vue musical? Et sinon, de temps en temps, écouter de la musique classique, si ça fait du bien.
Je voulais savoir si tu avais une routine matinale incontournable.
Non, c'est jamais pareil. C'est selon les films. Par exemple, il y a des films où, sur Gueule Noire, je me levais, je faisais une demi-heure de sport. Donc, je me levais plus tôt pour faire une demi-heure de sport. Ensuite, je mangeais, j'allais tourner, et le soir, je pouvais travailler sur Tu ne tueras point. C'est défini un petit peu par mon travail à chaque fois, c'est différent. Et je dois beaucoup plus m'adapter à chaque fois, mais généralement, j'essaye de faire du sport régulièrement. J'adore lire, donc j'essaye de trouver toujours des moments pour lire. Et après, j'ai toujours beaucoup de mails, beaucoup de gens à rappeler, de choses à organiser. Oui, c'est selon. Alors vraiment, oui, il n'y a pas de règle, c'est selon.
Et un bouquin que tu as lu, qui t'a plu, ou un classique? Moi, je suis toujours en quête de nouveaux bouquins.
Voilà, alors je suis en train de finir un bouquin en anglais. C'est l'histoire de Phil Knight, le mec qui a créé Nike. Donc, il raconte des vins. C'est bien parce que c'est pas trop compliqué, mais bon, c'est quand même. C'est son écriture en anglais. Donc, le petit défi, c'est de lire en anglais, c'est pas mal. Et donc, je lis à voix haute aussi pour m'exercer à travailler l'articulation. J'ai lu un livre sur Carl Gustav Jung. Alors là, il faut que je trouvais vraiment formidable. Parce que Jung, j'avais lu ses écrits, mais c'est quand même un peu complexe. Jung, c'est lui qui a... Et ne pas confondre avec Michael Jung, sympa par ailleurs. Mais Carl Gustav Jung, il a créé la psychanalyse avec Freud, en même temps que Freud. Et ses écrits sont un peu complexes. C'est-à-dire, c'est très intéressant, mais alors toutes ces phases de travail sont assez dures, pas toujours compréhensibles. Et là, ça a été vulgarisé par un auteur... Et j'essaye de retrouver le nom du livre là, qui est sorti. Tu fais Carl Gustav Jung.
Le Noir?
Oui.
Frédéric?
Oui, Frédéric Le Noir.
Voilà. Le titre? Jung, Un voyage vers soi.
Un voyage vers soi, voilà. Et en fait, il reprend alors à la fois l'histoire de Jung et aussi toutes ses théories, les choses sur lesquelles il a travaillé, en fait. Et c'est formidable. C'est vraiment formidable. Et il le rend hyper accessible. Et moi, donc, j'ai redécouvert Jung sur plein d'éléments auxquels j'étais passé à côté et que j'ai retrouvé grâce à lui. Alors, c'est marrant, Voyage vers soi, ça fait un peu New Age, un peu coach en développement personnel. Donc, peut-être c'est un titre que la maison d'édition a mis pour... voilà. Mais en vérité, c'est beaucoup plus intéressant que ça. C'est pas seulement... je vais lire quelque chose pour me sentir mieux dans ma peau. En fait, c'est surtout pour... avoir une autre vision, une autre conception de ce qu'est l'être humain et de son passage sur Terre.
Très intéressant.
Ouais, ouais.
Si Jung vous intéresse, je vous invite à regarder le film de Cronenberg, A Dangerous Method, avec
ouais.
Viggo Mortensen. Bon, c'est encore plus vulgarisé.
Ouais,
c'est
ouais,
assez
ouais.
sympa.
Oui, c'est plus anecdotique, disons.
C'est ça,
ouais. Ouais, ouais.
Trois dernières questions, Samuel. Je voulais savoir si tu avais quelqu'un à me recommander, quelqu'un que tu connais ou pas dans le milieu. Peu importe d'ailleurs si c'est un comédien ou non, pour que j'invite dans mon émission et qu'on fasse le même travail qu'on a fait ensemble aujourd'hui. Quelqu'un que t'aimerais entendre s'exprimer comme ça?
Ah ben, l'un, j'ai recroisé il n'y a pas longtemps, je parlais de lui, Thomas Bourgeron, qui est le professeur Thomas Bourgeron, qui est professeur à l'Institut Pasteur, et qui est l'homme qui a découvert le génome de l'autisme, et qui est passionnant, parce qu'à la fois, il a plein d'anecdotes, il travaille sur des centaines de cas, ses recherches aujourd'hui sont passionnantes, et on voit comment aussi l'intelligence artificielle va pouvoir aider. Et donc, il peut vous parler aussi du futur. Et ça, c'est vachement intéressant. T'es sûr d'apprendre des choses, c'est passionnant. Ah, il y a aussi un astrophysicien que j'adore, Lagadec. J'ai un trou de mémoire sur son prénom, qui est passionnant. Eric Lagadec. Ouais. Oubliez Eric quand même, faut le faire. Mais pareil, je me suis trouvé un dîner avec lui, j'ai échangé. Et donc, il est spécialiste sur les trous noirs et l'évolution de l'univers. Et c'est passionnant, à un moment avec lui, et il en parle très bien, il rend ça très accessible. Une heure ne sera pas suffisant, hein. ça sera même un peu cruel.
Je voulais savoir, je pose cette question à tous mes invités, question peut-être la plus philosophique, s'il y a quelqu'un dans ton parcours professionnel, je ne vais pas aller sur le plan du perso, à qui tu aimerais dire pardon.
Quelqu'un qui t'aimerait dire pardon? Il y en a plein, mais j'ose pas te dire, parce que sinon je vais avoir honte. Non, il y a des moments où j'ai cru que j'agissais bien, j'ai cru que je faisais les choses d'une façon juste. Et c'est toujours pareil, tu n'as pas tous les éléments et tu juges trop vite et tu te fais un avis trop vite et tu coupes l'élan, les gens dans un élan positif. Non, mais voilà, mais pardon... Des fois, je me dis, Bertrand Tavernier, par exemple, j'ai travaillé avec lui sur Capitaine Conan, c'était un premier film important, et j'adorais l'écouter, j'ai passé mon temps avec lui, mais j'aurais voulu faire encore plus. Pardon de pas t'avoir rappelé et pas avoir demandé à passer plus de temps avec toi, parce que c'était tellement passionnant, tellement enrichissant, c'était à la fois un puits de culture, un cinéphile, mais plus qu'accompli, dingue. Et riche d'anecdotes, de partage, de savoir. Pardon, pas de après le film, de ne pas s'être revu plus que ça, quoi. Je l'ai revu 2-3 fois, mais j'aurais voulu passer plus de temps avec lui, oui.
Et pour terminer, en plus, je conclue de la même façon avec tous mes invités. En plus, c'est intéressant parce que tu vas voir la Légion d'honneur. En général, quand on voit ce genre de distinction, on est un peu à l'heure des bilans. Je voulais savoir si à l'instant T de ta vie, tu avais atteint une sorte de plénitude, de quiétude professionnelle, genre.
Alors, pas du tout. En fait, il faut se remettre en question en permanence. Au moment où on pense avoir compris, qu'on n'a rien compris, déjà. C'est un métier, on est toujours sur la brèche. Et finalement, j'ai l'impression que toutes mes frayeurs d'enfant sont toujours là. Les mêmes angoisses, les mêmes frayeurs, les mêmes besoins de liberté, les mêmes besoins de problèmes de rapport à l'autorité, toutes ces choses-là sont encore là. Donc, j'ai appris à dealer avec. C'est comme s'il y avait deux personnes. Il y a un enfant qui est effrayé, qui a peur de tout et qui est prêt à lutter pour garder son indépendance, et en même temps un adulte qui est raisonné, qui a pris de l'expérience, qui a vu les choses, et qui a envie de lui dire « calme-toi de temps en temps ». Et donc c'est une lutte, en fait, entre ces deux individus en permanence. Donc j'espère que mes doutes vont continuer de me permettre d'avancer, et j'espère que je vais continuer à apprendre de mes erreurs, mais sans trop le payer non plus, parce que c'est bien que ce soit des sanctions dont on puisse se remettre. j'espère continuer à être surpris et surtout être surpris par la nouvelle génération. C'est ça qui est intéressant, c'est que je sois, voilà, moi je suis partie des anciens, et donc l'idée c'est pas de transmettre, c'est d'apprendre aussi des autres et voir comment cette connexion va se faire, quoi.
Merci beaucoup Samuel.
Merci à vous, ouais.
Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode avec Samuel Le Bihan. Si vous voulez soutenir le projet, vous pouvez mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify et vous abonner à Cadavrexki sur toutes les plateformes de streaming. Je vous donne rendez-vous très bientôt en compagnie d'un nouvel invité.